Bonjour à tous, bienvenue à votre Ciné Brunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie d'André-Jean Rouleau et Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour!
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 Et cette semaine, on a plusieurs belles choses au programme. André-Jean va continuer sa...
Mes fameux blocs sur le cinéma américain,
sur le cinéma américain, voilà. Alors tout ça en deuxième demi-heure d'émission. Sinon, on va critiquer pour vous trois films. La Grande Noirceur, c'est-tu bien ça?
Exactement, oui.
La Grande Noirceur, Miss Bailey...
Oui, ben, y a un litige, oui, mais sur l'annonce, c'est marqué Bala, mais en réalité, ça serait Balé, avec peut-être une petite prononciation latino, là, manger un peu dans un coin de rue.
Ben voilà, et sinon, de mon côté, j'ai vu pour vous le film Amoureux de ma femme, donc tout ça sera à venir dans cette émission, mais avant toute chose, quelques informations, quelques nouvelles pour vous dans le monde du cinéma, André-Jean.
Oui, ben écoutez, la 37e édition de Rendez-vous Québec Cinéma, qui a dévoilé en début de semaine dernière sa programmation. 2019, bien sûr. Donc, vous pouvez d'ailleurs tout consulter ça en ligne sur le site RVQC, bien sûr, Rendez-vous Québec Cinéma, et vous faire même un petit agenda personnalisé. En fait, le tout aura lieu, bien sûr. La 37e édition se déroule du 27 février au 3 mars prochain. Là-dedans, bon, on a un paquet de longs métrages, entre autres... Avant qu'on explose, du réalisateur Rémi Saint-Michel, qui va lancer les festivités toute première mondiale d'ailleurs. Ça, bien sûr, à l'ouverture à la grande soirée du Tapis Bleu présenté par Belle le 20 février au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Le rendez-vous vous propose, entre autres, en termes de longs métrages, une cinquantaine de longs métrages de fiction. Une programmation contient les grands succès populaires, bien sûr, et un bon nombre d'œuvres indépendantes. Du côté des documentaires, en fait, 80 courts-métrages moyens et longs de type documentaire, bien sûr, qui vont vous être proposés. Bien entendu, vous allez bien sûr avoir droit au grand coup dans ce style-là de cette année, soit New Memories, Pauline Julien, Intime et Politique, oui. Certains se rappelleront. La Part du Diable est, bien sûr, point première. En termes de court-métrage, il y aura 50 premières, 45 films en compétition, 27 films d'étudiants et un total de plus de 180 films répartis dans 28 programmes. Donc, on s'entend, le RVQC mérite bien son titre de plus grande vitrine du court québécois.
Ben oui, ça a l'air fort intéressant.
À une série de soirées et d'événements, je vous en passe, et c'est absolument incroyable. Il y aura des classes de maîtres, trois tables rondes sur les enjeux de notre cinéma québécois, un quiz festif sur la série culte La Petite Vie et bien d'autres. C'est un rendez-vous, n'allez pas manquer en fait. Allez sur leur site RVQC.
RVQC, voilà. Merci beaucoup, André-Jean. Mélina.
Oui, en fait, moi, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui du film Mon ami Walid. On a enfin annoncé qu'il allait être projeté à la Maison du cinéma, donc les 21 et 23 février prochains. Donc, c'est quoi, hein, Mon ami Walid? Je vais vous lire le synopsis. Ça raconte l'histoire de Walid qui veut s'enlever la vie, mais qui croisera sur son chemin Antonin qui l'en empêchera. Antonin décidera de faire de Walid, qu'il le veuille ou non, son meilleur ami. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce long métrage-là, est réalisé par deux humoristes, donc Adib Al-Khalidi.
Al-Khalidi, ouais.
Oui, et Julien Lacroix, donc. Au début, c'était produit plus pour être sur le web. Là, finalement, ils ont décidé de le projeter partout à travers le Québec. Et à date, ce qu'ils faisaient, c'était une représentation unique dans chaque ville, plus dans une salle de spectacle que dans un cinéma. Et les deux réalisateurs restaient après le film pour une séance de questions et réponses. Donc, on avait annoncé à Sherbrooke que ce serait au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Et donc, la Maison du cinéma vient d'annoncer qu'ils auraient... pour l'instant, il y a deux projections de prévues, le 21 et le 23 février prochain. Ils ont dit que s'il y a plus de demandes, on ajoutera des dates. Donc, je pense que ça va être intéressant à aller voir parce qu'on dit que c'est vraiment différent des longs-métrages qu'on est habitué de voir.
Donc, à venir dans quelques semaines.
Voilà.
Merci, Mélina. Alors, voilà, de mon côté, quelque chose de beaucoup plus léger, ce qui ne veut pas dire que c'était lourd, hein, loin de ça.
Non, mais on sent le jugement, c'est bon.
Ben non, à peine. De mon côté, je vais vous parler, pour tous les amateurs de la série de films Camping, qui mettait en vedette Franck Dubosc. En fait, je vais vous parler du nouveau film de Franck Dubosc, qui s'appelle pas Camping, mais qui sort cette semaine en France avec une pléthore d'acteurs connus, dont, évidemment, Franck Dubosc, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, François-Xavier de Maison. Et pourquoi je vous parle de camping par rapport à ça? Parce que franchement, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, le synopsis, planté par sa fiancée à l'aéroport, Bruno s'envole seul pour une semaine dans un club de vacances tout inclus ou all inclusive, comme le disent les Français, aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle, n'arrivant jamais seul, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cissé, l'éternel célibataire très envahissant, joué évidemment par Franck Dubosc. Donc, on reste vraiment dans le thème, dans la logique des films camping. Donc, ça sort cette semaine en France, peut-être ici dans 6 mois, 1 an, idéalement cet été, ça reste à voir. Et voilà!
Merci!
Voici votre Cinébrunch maintenant. Alors, André-Jean, t'as flashé les lumières cette semaine? Tu es allé voir La Grande Noirceur?
Oui, tout à fait. Écoute, film assez perturbant, on va se le dire. Ben, je vais y arriver, en fait. La Grande Noirceur qui est sortie, en fait, qui est un conte dramatique canadien, on pourrait dire québécois, en fait, à la Maison du cinéma depuis le 1er février, réalisé, bien sûr, par le fameux et désopilant Maxime Giroux, hein, réalisateur canadien, connu, entre autres, pour Joe, pour Jonathan, en 2010, où certains reconnaîtront plutôt Félix et Meïra en 2014, en fait, où personne peut-être ne reconnaîtra.
Moi non, mais peut-être, oui.
Renseigné, l'individu est assez perturbant. Réalisateur seulement, contrairement à plusieurs qu'on connaît comme scénariste, acteur, etc. Et c'est pas moins intéressant, vous allez voir où je veux en venir avec ça. Brochette d'acteurs méconnus, mais surtout très, comment je pourrais dire, très disparates, très mixés, en fait, entre le Canada et la France. Hein. Martin Dubreuil, le Québécois, Sarah Gadon, la Canadienne, Reda Kadeb, français, comme Romain Duris aussi, la Française, qui agit aussi comme chanteuse sous le pseudonyme de Soko. Je vous invite tout de suite donc à écouter cette merveilleuse bande-annonce.
Allô? Yes, what are you looking for? If you need something, we have it. Yeah, you're asking for something that is really unusual and rare. Okay, but you know the price.
Sortez d'où comme ça? Vous avez besoin d'aide? Vous voulez que je vous dépose?
Tu peux crier et chialer comme une gonzesse. Ça changera rien. Personne t'entend.
I see you've met my little Rosie. Don't be shy. Rosie's my little dog. She likes you.
Save me, oh God.
Les choses se sont mal passées, maman. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais je vais revenir.
Tu sais, t'y es pour rien. Nous sommes dans une époque de grande tempête.
Quelle connerie, la guerre, hein?
Alors, ce concours, vous avez gagné?
Quelle ambiance étrange!
Écoutez, c'est... C'est très intéressant comme film. Je vous envoie le synopsis, là. C'est question de vous mettre un peu la chose en bouche. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez entendu la bande-annonce, bien sûr, de La Grande Noirceur. Le synopsis va comme suit, hein. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, Philippe, un déserteur québécois, se réfugie dans l'Ouest américain en survivant grâce à des concours d'imitation de Charlie Chaplin. Durant son retour vers le Québec, il fait la rencontre de plusieurs individus sous l'emprise d'une folie destructrice. Est-ce que ces individus seront de réels individus ou des métaphores utilisées par le réalisateur? Écoutez, on passe... C'est un film inévitablement chargé et perturbant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix avec un titre comme ça d'arriver avec un petit peu d'attente. Moi, je savais pas à quoi m'attendre, mais le thème... Et quelque chose qui est récurrent dans notre histoire, hein? La Grande Noirceur qui réfère bien sûr à cette période d'un panel
pour moi, c'est toujours la législation qu'on...
Oui, mais bon, à l'époque, en fait, là, je reviens sous le régime Duplessis, bien sûr, qui avait imposé une série de lois très conservatrices, en fait, pour tenter de relancer l'économie, mais en fait, en même temps, de contenir un peu l'espèce de folie de l'époque, finalement. C'est ça. Le film est perturbant en le sens que il y a une utilisation de la photographie qui est absolument inévitablement sans équivoque, référent à des images de notre passé. Malheureusement, il y a des choses que j'aurais voulu faire des images, surtout des scènes où on retrouve le héros en premier plan, en train de passer des appels, mais sur des murales c'est vraiment des œuvres gigantesques qui clairement font référence à la classe ouvrière, etc. Ça réfère à quelque chose, je suis convaincu, qui est directement dans notre passé. Malheureusement, ce n'est pas des choses qui m'ont sauté comme ça parce que je n'ai malheureusement pas fait histoire de l'art. Une photographie qui donne aussi un bel effet d'isolement personnel. L'isolement personnel du personnage est très vécu, finalement. On voit ou on ressent à travers ce choix de photographie-là ce que le personnage peut sentir. Et on ne peut qu'avoir de la sympathie pour le pauvre bougre, bien sûr. Une trame sonore qui aide à alourdir certaines scènes et apporter un effet dramatique certain et sans équivoque. Un jeu d'acteur profond qui ajoute une perturbation vécue par le spectateur, c'est-à-dire... Inévitablement, en ce qui concerne toute cette merveilleuse brochette d'acteurs, on y croit, mais à 100% finalement, puis ça finit par nous confronter personnellement. C'est facile de se mettre dans la peau du personnage par rapport aux impasses qu'il peut vivre avec à travers les différentes altercations qu'il a. Les plans de vue sont très diverses, en fait, tantôt à l'épaule, tantôt très intimes, tantôt panoramiques, tantôt juste égarants, en fait. Ça nous aide à nous imprégner du sentiment d'incompréhension que vit le héros à travers son entourage et dans ce contexte très particulier de la guerre, finalement.
Oui, parce que moi, juste la bande-annonce, là, le mood, là, l'ambiance, c'est incroyable. Assez particulier. Là.
Incroyable, puis on ne
m'attendais pas à ça du tout. Là.
Ben moi, ce qui m'a perturbé, en fait, on est rapidement... Tu sais, ça va très vite, on saute dans la situation initiale et c'est difficile de figurer certains changements de scène, en fait. On ne peut pas comprendre, il y a certaines choses qui... C'est clair que c'est choisi par le réalisateur, mais encore là, quelle en est la fonction? En ce qui me concerne, c'est absolument impossible d'accepter qu'il s'agit d'un manque d'attention du réalisateur ou d'un manque de contenu. L'intention du réalisateur, par contre, n'est pas nécessairement accessible à la première audition. C'est un film qui demande inévitablement de la réflexion. Personnellement, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé parce que c'est... Comme je dis, il y a des scènes, on ne sait pas comment la transition se fait. Tout à l'heure, il s'endort sous une pierre. On le retrouve en train de se réveiller étendu dans le désert. La pierre était dans le désert, mais il n'était pas dans la même plaine. Il y a des changements de scènes comme ça qui sont terriblement... Ça fait grincer des dents un peu, mais...
Est-ce qu'on est dans la maladie mentale? Est-ce qu'on est dans la folie?
En fait, ça m'amène... Moi, ça m'a plutôt amené... Mon premier réflexe, c'était de penser que les divers personnages avec lesquels il a été en contact, c'est peut-être plus des mises en situation qui nous sortent du contexte de la guerre, finalement, du film. Parce que lui, il est clairement dans cette époque-là où, puis on le sait, hein, certains se mutilaient au Québec pour ne pas être conscrits. Certains autres se fuyaient aux États-Unis, justement, comme lui. Donc, on est dans ce contexte-là, mais les personnages, la manière qu'ils interagissent avec lui, ça nous confronte à des réalités qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est sur la mondialisation, sur le capitalisme et son emprise, sur notre façon de consommer. C'est assez perturbant parce que moi, je trouve que c'est frais, en fait. C'est-à-dire, c'est exigeant mentalement, mais je ne m'attendais pas à ça pantoute. Ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué. On faisait référence la semaine dernière ou il y a deux semaines à, voyons, le film qui a été fait avec Pascal Bussière et...
Impétus,
qui était perturbant, mais dans un autre sens. Là, il y a clairement quelque chose derrière qui est au-delà d'une réflexion personnelle ou d'une impasse personnelle traduite en film. C'est vraiment une réflexion qu'on veut amener à l'auditeur. Par contre, elle n'est pas très, très accessible. Moi, je vous dirais, inévitablement, je ne peux faire autre chose que lui donner un 9 sur 10 parce qu'il y a une qualité de l'image, il y a une qualité de la trame sonore. Le jeu d'acteur est incroyable. Je veux dire, par contre, la mise en scène, comment tout ça est amené, c'est clair que vous avez besoin. Allez-y en groupe ou prenez le temps d'aller bien le voir à tête reposée sans trop d'attente par rapport au contexte historique parce que de toute façon, on va vous y ramener.
On ne va pas là pour le divertissement, là.
Oui, mais pas le divertissement léger comme j'ai fait dans les films précédents, là, où on va parler de films d'action, ou etc.
C'est pas
on
est
là pour... Non. On est là pour la réflexion puissante. Et il y en a une, je suis convaincu, sur notre place peut-être comme Québécois dans ce monde funky, ou comme Québécois, comme Canadien, là, peu importe comment on se sent. Il y a quelque chose là, qui nous... Il y a des scènes qui sont clairement là pour nous amener à réfléchir sur le sens du monde at large, finalement, ce qui est assez perturbant parce que, comme je dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film comme ça et j'ai adoré.
Eh bien, La Grande Noirceur, 9 sur 10 pour André-Jean.
Oui, tout à fait.
Ben écoute, merci beaucoup André-Jean.
Un plaisir.
Mélina, tu es allée voir le film Miss Bala ou Miss Ballet ou bref, tu t'es emballée.
Miss Bala, oui, je me suis emballée.
Emballée.
Donc, le film Miss Bala, il faut savoir premièrement que c'est inspiré par un film mexicain du même nom qui était sorti en 2011. Et ça met en vedette Gina Rodriguez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle qui joue le rôle de Jane dans la série Jane l'Immaculée, Jane the Virgin, qui est une série qui a été beaucoup... Je pense qu'elle est encore sur Netflix. Elle a joué à Bright TV. C'est une série humoristique. Moi, j'en ai écouté quelques séries. J'ai trouvé ça très drôle. Donc là, on la retrouve dans un rôle qui est complètement différent de ce qu'elle nous a... ce qu'on a vu dans Jane l'Immaculée. Et le film est réalisé par Catherine Hardwicke. On la connaît, bon, elle a réalisé le film Twilight, entre autres, mais on la connaît aussi pour le film 13. Et là, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, André-Jean. 13,
c'est un film d'horreur.
Un film d'horreur, un film qui est sorti en 2003 et ça traite de la préadolescence de ce passage-là. C'est un film qui est très rough à voir.
Ça ne me dit rien.
Je sais que ça l'a marqué plusieurs personnes qui ont vu ce film-là. Pourquoi? Ben parce que ça dressait un portrait assez intense du passage En fait, on suit deux jeunes préadolescentes de 13 ans, donc on arrive dans le 13. Mm-hmm. Donc de 13 ans et le passage, tout ça, on parle de drogue, on parle de sexe, on parle de piercing, c'est vraiment un film qui est excellent.
Un film de préado.
Un film de préado, mais un bon film de préado, genre que j'invite les parents qui ont des préadolescents, préadolescentes, surtout à la maison, à écouter ce film-là avec les préadolescentes. C'est un très bon film.
Là, on parle du film 13.
On parle du film 13 qui a simplement été réalisé par la même personne qui a réalisé le film dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais je trouvais ça intéressant parce que je ne savais pas qu'elle avait réalisé ce film-là. Après, lorsque j'ai fait ma recherche pour cette critique-là, j'ai appris ça et je me suis souvenu de ce film-là. Et je me suis dit que c'est ça. Ça reste encore vraiment beaucoup d'actualité. C'est un très bon film, donc si vous ne l'avez pas vu, à voir. Et sinon, on revient au film que j'ai vu, le film Miss Bala. Donc, on va aller écouter tout de suite la bande-annonce. Pourquoi? Parce que c'est pas le genre de film que je vois d'habitude, c'est pas le genre de film que je critique d'habitude, donc là, j'ai envie de vous mettre un peu dans l'ambiance pour qu'on sache un peu où on s'en va avec tout ça.
D'accord.
Je suis si contente que tu sois là. Mouah! Après la mort de mes parents, je ne pensais pas revenir à Tijuana, mais je t'ai toujours considérée comme ma famille.
Tu es ma famille.
T'es américaine? Tu viens de Los Angeles?
Je veux juste retrouver mon ami.
Va falloir que tu me rendes un petit service.
Le bâtiment que t'as fait sauter, c'est un repère de la DIA. Tu sais combien tu vas prendre pour ça? À moins que tu nous aides à coincer Lino, est-ce pas ça?
Je vous en prie, lâchez-moi!
Oh, quand même, oui, on change totalement d'univers, là.
Oui, c'est un thriller d'action américain, donc on est dans les gros films, comme j'ai pas tant l'habitude de critiquer. Donc, l'histoire, en fait, donc on l'entend, on suit le personnage de Gloria. Donc, c'est une maquilleuse professionnelle qui fait carrière à LA. Et elle rend visite à sa meilleure amie, Suzu, qui est au Mexique, à Tijuana. Et Gloria, donc comme elle le disait dans la bande-annonce, ne voulait pas retourner au Mexique suite au décès de ses parents, mais elle décide d'y aller pour voir son amie. Et là, elles sortent les deux filles sortent dans une boîte de nuit, il y a une grosse fusillade, les deux filles sont séparées, elles sont kidnappées. Gloria est kidnappée par un gang qui s'appelle Las Estrellas. Et donc, c'est un peu ça, la mise en contexte du film. Là. Je ne vais pas trop en dire plus pour éviter de trop divulgâcher l'histoire. C'est une histoire qui est vraiment pleine de rebondissements. Donc, c'est très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, voilà, une histoire de drogue, de cartel, de gang. Un peu, vous voyez le genre de film.
Oui.
Et là, on se demande, mais pourquoi Mélina as-tu aimé autant ce film-là?
C'est ça, je pense qu'on est en train de se transformer, Mélina, de Harry Potter. Oui, on passe à film de gang avec de la
drogue.
Non,
mais je suis curieux, là, ça ne ressemble pas.
Non, mais c'est ça, effectivement.
Donc, un producteur qui a produit un film d'Harry Potter ou quelque chose.
En fait, je suis rentrée voir ce film-là sans vraiment aucune attente. Et à la fin du film, je me suis dit, waouh! C'est rare que je trippe autant sur ce genre de film-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était différent? Et là, j'ai réalisé qu'il y a plusieurs choses qui d'habitude sont montrées dans ces films-là qui n'étaient pas montrées dans le film Miss Ballas, que j'ai beaucoup apprécié. Et là, j'ai vu que ça avait été réalisé par une femme. Puis là, je me suis demandé si c'était peut-être pas pour... Si c'était pas... Ça n'avait pas un lien avec la raison pour laquelle j'avais plus aimé ce film-là que les autres. Et je pense que ça a un lien. Je pense que c'est un film qui est extrêmement... qui donne la place aux femmes. Donc, dans le sens que le personnage principal, c'est une femme, mais c'est un film qui est très féministe. Dans ce que je veux dire par là, on n'aborde pas du tout ces thèmes-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, premièrement, c'est qu'on ne voit pas à peine de scènes de sexe. Alors que dans ce film-là, on s'entend, les filles sont kidnappées, sont dans des cartels, sont dans des gangs, généralement.
Les indices sont là, ou à la table est mise, en fait,
c'est
pour
ça,
ce genre de...
D'habitude, on voit beaucoup de violences sexuelles ou de choses comme ça. Là, on sous-entend pas que ça se passe pas. On s'entend que ça se passe, ça reste ce qui se passe, mais on
l'aborde pas.
On le voit pas. Et ça m'a amené à la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le voir dans les autres films de ce genre-là? Et là, pour moi, ça, c'est une belle preuve qu'on n'a pas besoin de voir ces scènes-là pour comprendre que ça se passe. Et ça reste un film qui est tout aussi fort. Le personnage principal, elle est extrêmement forte. Et elle n'est pas juste... C'est pas comme dans le film que j'avais vu un peu plus tôt avec Jennifer Gardner, là, qui se transformait en tueuse,
oui,
et qui allait venger.
Qui était relativement bon, d'ailleurs, ce film.
Il était très bon, oui, ce film-là. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans Miss Ballas, c'est qu'on garde l'humanité du personnage. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle ne se retrouve pas... en femme forte qui est capable de ouais, je veux dire, elle a toujours été une femme forte, ouais, mais elle est pas d'un coup, tu sais. On voit la progression, on voit comment émotionnellement c'est difficile pour elle ce qu'elle vit pendant ces 3-4 jours-là. Et ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile, selon moi, de s'identifier à ce personnage-là.
Cette sensibilité-là, parce que là, pour l'instant, ce que tu dis, je me demande en quoi c'est féministe. Mais
c'est ça.
Je comprends que, finalement, la sensibilité... Fait que le thème, c'est plus le personnage et non pas toute l'action qui tourne autour.
Oui.
C'est-à-dire, ça reste elle, avec les difficultés que ça y amène à vivre, puis on suit ça, en fait,
comment elle vit. On voit beaucoup tout ce qui se passe autour, mais les décisions qu'elle prend aussi, c'est tout le temps, ça fait du sens. Et pourtant, l'histoire reste pleine de rebondissements. J'ai été vraiment surprise à plusieurs reprises dans le film. Mais c'est aussi que... C'est vraiment ça, je pense. C'est que certaines scènes qu'on est habitué de voir dans ce genre de film-là, on les voit pas. Puis ça, je trouvais ça bien. Dans le sens que, est-ce que c'est vraiment nécessaire de voir la fille se faire violer par quatre gars? Est-ce que c'est nécessaire?
Oui, à moitié tout nu.
On a déjà eu la discussion.
Évoquer la chose, on sait que c'est là.
Ouais.
C'est aussi lourd, même des fois plus lourd de ne pas le montrer.
On l'imagine.
On avait parlé, c'est ça.
Oui. Puis on met pas tant l'accent dessus, dans le sens que c'est pas ça le truc principal.
C'est comment elle a vu ça, plus personnellement.
C'est ça. Et j'ai eu l'impression que ce film-là... c'est que dans d'autres films, dans d'autres thrillers d'action, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui sont mises là simplement pour attirer une certaine clientèle à aller voir le film. Donc, pour attirer, on se dit, OK, on va faire un thriller d'action, on va avoir notre public cible, ça va être des hommes de 16 à 40 ans, par exemple, ou je sais pas. On va mettre certaines scènes pour aller chercher ce public-là. J'ai l'impression que dans le film Miss Bala, on n'a pas fait ça. On s'est pas dit, c'est pas un film qu'on va dire, ah, OK, c'est fait pour public cible d'hommes. C'est vraiment, je pense que c'est un film, je sais pas si on s'est dit, OK, ça va être un film qui va aller plus rejoindre les femmes. Ça je sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, ça m'a vraiment beaucoup plu en tant que film. C'était extrêmement réaliste. C'était très crédible, c'était plein de rebondissements et j'ai vraiment beaucoup aimé le traitement du sujet qui a été fait dans ce film-là. Je pense que j'aurais été curieuse, en fait, d'avoir un de vous deux, en fait, critiquer le film pour voir comment vous l'auriez vu, pour voir un regard d'homme sur ce film-là aussi. Je pense que ça l'aurait été intéressant. Pour moi, c'est vraiment un signe que ce genre-là n'est vraiment plus ce qu'il était il y a 15 ans quand on visait exclusivement un certain public cible. Ouais. J'ai l'impression qu'on ouvre ça beaucoup plus large, ça rend ça beaucoup plus accessible aussi, je pense, pour les femmes d'aller voir ce film-là parce qu'on est moins soumise à des images qui sont des fois extrêmement violentes sans vraiment que ça serve le film. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que je veux dire que ce film-là est féministe à sa façon, genre. Ouais. Et c'est très intéressant.
C'est vrai que le cinéma se transforme, mais les films de genre se transforment aussi. Et comme vous le disiez, on est loin des petits films d'action des années 90 avec Bruce Willis ou des choses comme ça. Là, on a complètement changé la dynamique. Là. C'est plus c'est suffisant juste d'avoir des fusils, puis de tirer, puis d'être
cool. C'est ça, puis on n'a plus la femme qui est juste là, puis qui est toujours en train de se retourner vers l'homme pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je vais faire.
Oui,
on a une femme qui est là, qui est capable de prendre des décisions, qui est capable de douter.
Plus crédible.
Exactement.
C'est merveilleux. Écoute, je ne suis pas tout à fait en accord. En fait, je suis totalement en désaccord avec
Non, mais attends,
je veux voir la cote. Non, mais c'est parce que ça amène des sujets. Moi, on va se revoir puis en parler. Non, pas du tout, mais là, on est rendu donne-nous ta note. Non, je ne relancerai pas l'affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je trouve ça merveilleux parce que ça me prouve qu'on est, on a des choses à dire.
On a des choses à dire à Cinébrunch.
Non, c'est merveilleux.
Pour le film, Miss Ballon, oui, j'y vais avec un 8 sur 10.
OK. Ça reste donc fascinant, mais... On vire pas fou non plus.
Non, on vire pas fou. Je veux dire, ça reste un thriller d'action.
Okay.
Sauf que pour moi, ça l'a rendu ce genre-là plus accessible pour moi.
Intéressant.
Non, mais André-Jean, tu peux pas nous laisser comme ça. Nos auditeurs, les lignes sonnent. Là. En une minute, pourquoi?
Parce qu'il y a des films d'action qui ont été... Je suis d'accord avec toi, la clientèle... D'après moi, la clientèle est toujours ciblée, premièrement. C'est-à-dire que ce soit une réalisatrice féminine ou masculine, il y a un choix dans le style et donc dans la clientèle. Mm. Qu'est-ce qu'on cible comme clientèle exactement? Je suis pas contre le principe qu'on ait peut-être ouvert un peu certaines affaires par le style ou par, comme on dit, le traitement du thème. Après ça, c'est pas vrai qu'on n'avait pas des films où la femme n'était pas réduite. En fait, ça date, ça, d'après moi, la femme réduite à... qu'est-ce qu'on fait, monsieur Indiana Jones, etc. Tu sais, on a eu Lara Croft. En fait, non, mais elle a toute une série,
c'est
la fille.
Qu'on a eu Lara
c'est elle. Je suis d'accord avec toi qu'elle est à moitié tout nue tout le temps. C'est-à-dire, on aime bien ça l'avoir en legging, mais dans les faits, c'est elle qui fait tout. Tu sais, c'est elle le cerveau, même que tous les autres hommes passent pour des espèces d'idiots notables.
Moi, je propose, parce que là, effectivement, on n'a plus
de temps. On va partir,
mais,
c'est ça.
Mais on va définitivement revenir sur ce point-là. La transformation du cinéma et le féminisme au cinéma américain. On reparle de ça une autre fois. Alors voilà, c'est tout pour cette première demi-heure de Cinébrunch. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission et un bloc sur le cinéma américain. Et je critique pour vous le film Amoureux de ma femme. À tout de suite! Vous êtes toujours à l'émission Cinébrunch en compagnie de Jim Boulay, Mélina Lopez-Nadeau et André-Jean Rouleau. Et dans quelques minutes, André-Jean va nous présenter sa deuxième partie là, de son bloc informatif, et non pas informatique,
sur le cinéma américain.
Mais avant de se rendre à ça, je vais vous parler d'un film que j'ai été voir cette semaine, le film Amoureux de ma femme, qui est une collaboration France-Belgique, une comédie dramatique sentimentale réalisée par Daniel Auteuil, que j'adore, et aussi lui-même en vedette dans ce film aux côtés de nul autre que Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlin et de la sublime Adriana Ugarte qui jouait Julieta dans le film éponyme d'Almodovar, probablement l'une des plus belles femmes du monde, mais là je m'égare. Le film est très théâtral dans sa forme, c'est probablement parce que c'est basé sur la pièce de théâtre « L'envers du décor » de Florian Zeller qui l'a scénarisée. Pièce qui avait d'ailleurs été mise en scène par Daniel Auteuil à l'époque, il y jouait aussi, et maintenant il l'a adaptée au cinéma. Il y a beaucoup de critiques très négatives entourant le film Amoureux de ma femme. On verra ce que j'en pense au retour de cette bande-annonce.
Daniel!
Oh Patrick!
Dis-nous ensemble ce soir si tu veux.
Avec plaisir, comme ça je pourrais enfin vous présenter Emma.
Attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici avec sa nouvelle copine?
Non, c'est ça.
Mais Daniel, c'est ça? Alors que ce salaud vient de quitter ma meilleure amie sans aucun état d'âme?
Je
n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire, pour cette gamine de 30 ans.
Oh, écoute, c'est pourtant très facile à comprendre, hein.
Qu'est-ce que t'as dit?
Moi?
Il se délecte de te voir faire ce que tu fais.
Ce que je fais, qu'est-ce que je fais?
Tu lèches vitrine.
Du quoi?
Du lèche-vitrine.
Et tu délires totalement, il est juste venu dîner à la maison pour nous présenter la femme que j'aime. La femme qu'il aime.
Voilà, alors c'était la bande-annonce du film Amoureux de ma femme, avec notamment Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Adrien Ugarte et Sandrine Kiberlin, qui honnêtement, ça s'arrête totalement là. Il reste des figurants, mais c'est vraiment ces quatre personnes qui sont dans le film. On a vraiment gardé l'esprit de la pièce de théâtre, donc en faisant ça minimaliste. L'histoire du film, rapidement, Daniel Auteuil, qui porte son propre prénom d'ailleurs, rencontre fortuitement son vieux chum Patrick, Gérard Depardieu. Patrick vient de laisser sa femme, qui était la bonne amie de la femme de Daniel, pour une autre femme plus jeune et hispanique, Emma. Donc, vous avez entendu déjà tout ça dans la bande-annonce. Ils conviennent de se rencontrer pour un souper, ou plutôt un dîner, comme ils le disent, et occasion pour Patrick de présenter sa nouvelle amoureuse à Daniel et sa femme. Et là, tout le film se passe pendant ce souper-là entre les deux couples. On quitte pourtant souvent l'appartement de Daniel pour y visiter Venise, Ibiza, un théâtre, un bar, etc. Mais pourquoi? Parce que Daniel a un coup de foudre instantané pour Emma, donc dès le premier regard, qu'il ne peut cesser de rêver, éveillé, de s'imaginer avec elle, de fantasmer. On se perd de plus en plus entre la réalité et les fantasmes imaginaires de Daniel, qui donne tout un show aux autres durant le souper. Ce film-là est fantastique. Je vais le dire, honnêtement, les acteurs sont tous numéro un. Évidemment, Daniel Auteuil et Depardieu, c'est des gros souliers. Mais la jeune Adriana Ugarte, qui joue Emma, interprète à la perfection la beauté naïve et vivante d'une jeune femme qui s'émerveille devant la vie. J'avoue, honnêtement, ne pas comprendre pourquoi ce film-là est si mal noté. Les notes sont épouvantables. J'ai vu des 1,5 sur 10, des trucs comme ça.
Je pense que mis 0 étoile sur 5.
On a 5 sur Rotten Tomatoes. C'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Honnêtement, je comprends pas la critique de ce film-là. Je comprends pas du tout. On reproche des lieux communs, des clichés, des petits problèmes parisiens bourgeois. Évidemment, on n'est pas dans un film coup de poing. Évidemment, on n'est pas dans un drame de guerre ou une tragédie sur la pauvreté des enfants. On est dans une comédie. Mais bon, à un moment donné, je pose la question suivante. On a-tu le droit de faire des films qu'on veut? Est-ce qu'on peut reprocher à un artiste d'exprimer ce qui mijote dans sa cervelle? Hein?
Non, mais c'est une comédie, mais c'est une comédie qui est inaccessible selon
absolument
les critiques.
Absolument pas. Non, au contraire.
Tu vis pas sur le plateau et...
Mais non, moi, je comprends. Franchement, je suis flabbergasté. Okay. Parce que, non, sérieusement, pour moi, l'art, c'est un moyen d'expression. L'être humain, c'est la seule espèce, à ma connaissance, qui a le pouvoir incroyable d'exprimer et de fixer dans de la matière l'espèce de chaos qu'il y a en dedans de lui. Pas peut-être les dauphins, là, j'ai pas vérifié, mais en gros, on a cette chance-là de pouvoir faire ça. Et après ça, de faire partager ça aux autres qui, de façon réciproque, va toucher les émotions des autres et les nôtres. Je pense que critiquer des films, c'est vraiment important pour faire avancer le cinéma, pour empêcher les producteurs, les distributeurs de faire n'importe quoi juste pour vendre des films. Je pense que c'est important pour aider à conserver une certaine qualité cinématographique. Mais ultimement, excusez ma montée de lait, mais un film, c'est comme un tableau, c'est comme une composition musicale. Mais je veux pas critiquer notre propre rôle de critique, mais un peu quand même. Je veux dire, que ça nous touche ou pas, c'est quelque chose de personnel, là. Moi, je fais cette critique-là, et c'est mon opinion que je donne, là. Est-ce que le film peut être bon ou mauvais d'une manière absolue? Est-ce qu'on est en train de transformer une appréciation subjective, personnelle, en vérité absolue et fondamentale? En tout cas, moi, je trouve que franchement, je m'adresse aux critiques en disant ça. Tenez-vous debout, parce que ce qui se passe dans le monde de la critique est totalement pénible en ce moment. Il suffit qu'un critique avec une certaine réputation écrive quelque chose de négatif sur un film qui ne lui a pas plu ou parce qu'il cherchait simplement à chercher le trouble, finalement, ou des choses négatives dans sa vie, qu'il essayait de se venger sur un film. Ben, pour que tous les autres suiveurs qui font des critiques comme se sentent mal de dire qu'ils ont aimé le film parce qu'ils veulent pas avoir l'air d'être à côté de la traque. Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Ah oui, mais là, en même temps, parlez-en bien, parlez-en mal, des fois, ça va provoquer quand même une curiosité chez l'auditoire.
Oui, ben 1,5 sur 10, là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vont regarder la critique, qui vont aller voir le film, honnêtement. Et oui, on était deux dans la salle, là, la semaine de
c'est
sortie.
Ça. Moi quand Jim m'a dit « je vais aller voir ce film-là », j'ai dit « ah oui, t'es sûr? » Parce que moi, le titre de l'article que j'ai lu, c'était que Daniel Auteuil serait mieux de rester devant la caméra plutôt que d'aller derrière. J'ai dit « Jim, t'es sûr que tu vas aller voir ce film-là? » Jim m'a dit « oui, je vais aller voir ce film-là. »
Oui, parce que c'est un film de Daniel Auteuil. Moi, personnellement, j'aime tous les films de Daniel Auteuil. Je suis peut-être biaisé à ma façon. J'adore les films de Pagnol que Daniel Auteuil a refait, et j'adore même les interprétations de Daniel Auteuil. Je le trouve très bon devant la caméra, mais je le trouve très bon derrière aussi. Et pour vrai, ce film-là, il est très bien fait. Là. Il est vraiment très bien fait. Moi, je comprends pas. Okay. Je comprends pas. Okay. Je vois pas.
Toi, tu l'appuies. Techniquement, c'est bien réalisé. Le jeu d'acteur est irréprochable.
Le jeu d'acteur est irréprochable. La seule chose qu'on lui reproche de façon relativement partout, c'est les clichés. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est en train d'exprimer quelque chose d'une façon ou d'une autre.
C'est un type d'humour aussi.
Ben, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Là. Écoute, en tout cas, moi, je vais être honnête avec vous. Ça me dérange parce que je suis persuadé que dans ce cas-ci précisément, il y a vraiment un mouvement là, domino. Là. Il y a un effet domino. Il y a 3 ou 4 critiques qui ont mis des notes négatives. Et là, l'Internet s'est peuplé de notes négatives qui sans le dire officiellement,
se répètent
d'une certaine façon sans jamais vraiment dire pourquoi. Honnêtement, je recommande ce film-là à n'importe qui. Je recommande tout à fait ce film-là à n'importe qui. C'est pas lourd, c'est simple, c'est bien fait, c'est drôle. Honnêtement, c'est drôle. Je vois pas de moyen de détruire ce film-là autre que la mauvaise volonté. En tout cas, bref, moi, je m'excuse de me fâcher comme ça, mais j'ai fait ma critique avant de lire les autres critiques. Et honnêtement, ce que j'ai lu, pour moi, ça sonne totalement faux. J'ai l'impression qu'on critique le film pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il n'est pas. Et comme si c'était un mal, en fait, d'être différent ou de ne pas être différent. Je suis certain que par exemple, si c'était un jeune réalisateur qui avait signé ce film-là, la critique aurait été excellente. Ça aurait été comme « Wow, un réalisateur en vogue avec une nouvelle production. » Mais non, là, c'est Daniel Auteuil. C'est des grands noms, c'est Depardieu. Et c'est ça. On veut juste utiliser une tribune avec des gros noms pour se donner de la visibilité et puis déranger le plus de monde possible. En tout cas, sachez que ce film-là, je parle toujours du film
Amoureux de ma femme.
Oui. Sachez que ce film-là est très original, est très bien ficelé, que les prémices et en fait, ce qui compte dans ce film-là, c'est pas le backstory bourgeois de Depardieu et de Daniel Auteuil, c'est le désir, c'est l'interdit. Je pense qu'il faut aller voir le film Amoureux de ma femme pour ce qu'il est, donc une pièce de théâtre. Donc il faut s'amuser devant les interactions entre les acteurs, entre les personnages. C'est un jeu un peu grossi parfois, mais sans jamais perdre la crédibilité parce que on est dans le Daniel Auteuil et dans le théâtre en même temps. Moi, franchement, je vais vous dire, avant toute chose, là, ce film-là, c'est l'histoire de Daniel et de ses fantasmes, alors qu'il est épris d'un coup de foudre fracassant pour Emma, qui est la nouvelle copine de Patrick. C'est ça l'histoire. Ça s'arrête là. La bourgeoisie et tout ça, ça n'a aucune importance. Je comprends pas qu'on perde de temps là-dessus. Ce film-là, c'est une ode à la beauté, à la sensualité. On entre dans les fantasmes de Daniel et c'est troublant de réalisme pour moi. Je me reconnaissais totalement dans ce genre de situation-là. Ça m'a parlé beaucoup. Parfois, le désir va dans un sens et la raison va dans un autre sens, mais illustrer ce combat-là à l'intérieur et les tensions et les tentations humaines de cette façon-là, c'est tout à fait remarquable. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Et en plus, il y a des moments de tension sensuelle, érotique, presque sexuelle dans ce film-là, probablement ce que j'ai vu de plus intense au cinéma en termes de tension. Sans blague, là. Oui. Sans blague. J'ai vécu...
Sans être dans la pornographie.
Il n'y a aucune pornographie, c'est très, très prude à ce niveau-là. Le désir est à ce film-là, ce que le suspense est à Hitchcock, là. Puis sérieusement, je suis sobre en disant ça, là. non, mais tu sais, qu'on se le tienne pour dire. Non, mais sans blague. Et pourtant, il n'y a aucune vulgarité, presque aucune nudité dans le film. Le thermomètre du désir se fait aller joyeusement et c'est franchement très réussi. Maintenant, il n'y a pas que du positif non plus. Je dirais peut-être que la fin aurait pu être un petit peu plus punchée. Je pense que c'est intéressant, mais ça percute pas tant. Sinon, bien évidemment, c'est certain qu'on aurait voulu en savoir un peu plus sur ce qui se passe après le film, parce que tout se passe avant, pendant et après le fameux souper. Mais dans tous les cas, c'est magnifique. Je donne un franc 9 sur 10 à ce film-là. Et j'ai vu des gens donner 1.5 sur certains sites. Et franchement, je pense que ces gens-là n'ont pas compris ce que le film essayait de dire. Et pourtant, c'est même pas forçant de l'écouter. Donc,
il faudrait peut-être faire des statistiques sur comment les critiques réagissent après le temps des fêtes. T'sais, la fameuse période morne où on manque tous de soleil, etc. Peut-être qu'il y a des statistiques à faire pour vérifier la sincérité. C'est-à-dire que
c'est pas fou, ça.
Il faudrait faire une étude exhaustive.
Ben oui, en tout cas, ou comment les gens réagissent à ma critique des critiques. Ça, c'est une autre question.
Non, mais ça, c'est un autre sujet. Ça m'a stimulé, je me tais parce qu'on va être reparti. Mais
ben voilà.
Merci
non,
à toi.
Ben, il n'y a pas de quoi. « André-Jean, c'est le moment de continuer ton bloc sur le cinéma américain et tu nous as concocté des petites affaires encore cette semaine.
Toujours plus de plaisir, effectivement. Bon, écoutez, il y a déjà 3 semaines de ça, on avait parlé, je vous avais fait un premier bloc informatif sur le cinéma américain et j'enchaîne avec un deuxième, justement. Donc, je vais vous faire une petite récapitulation, en fait, de notre premier bloc. Hein. On se rappelle qu'en 1891, on avait vu l'apparition de la pellicule 35 mm grâce à Thomas Edison et son partenaire William Dixon. Kennedy Laurie Dixon. Ouais. En 1995, les projections sur grand écran mettaient fin à l'exploitation des kinétoscopes, hein, qui étaient des petits appareils dans lesquels on pouvait individuellement se présenter, aller regarder, etc. Au début 1900, on avait la fondation des Majors, hein, sur lesquels porter attention lors de cette émission, et même allez vous renseigner parce qu'il y aura peut-être une petite question là-dessus. Donc, les Majors qui étaient issus majoritairement d'une immigration pauvre et majoritairement juive de Russie, Allemagne, Autriche-Hongrie. En 1910, Hollywood devient le plus important centre de production de l'industrie cinématographique et on avait l'apparition des Majors, comme je disais, de 1915 à 1923, hein, soit Fox Film Corporation, ou Corporation, pardon, qui deviendra 20th Century Fox, Goldwyn Corporation, qui deviendra
MGM,
Metro Goldwyn Mayers, bien sûr, MGM, et Warner Bros. Studio, bien sûr.
Qui ont gardé
ça,
leur
c'était
nom.
De 1915 à... Oui, qui, eux, ont gardé leur nom de 1915 à 1923. En 1927, l'avènement du cinéma parlant sonnait le glas pour les comédies burlesques et les gags visuels des Charlie Chaplin, Buster Keaton de ce monde. Et voici maintenant le début de notre deuxième bloc qui s'intitulera, bien sûr, « L'âge d'or hollywoodien ». Là, j'aimerais avertir nos auditeurs, hein, il va y avoir un petit jeu ici parce qu'on a le droit d'avoir du plaisir en
ben
studio
oui.
pour mes animateurs, mes co-animateurs, bien sûr, mais il va y avoir un jeu qui va être en ligne, c'est-à-dire que...
Pour les auditeurs!
Pour les auditeurs, suivez bien sur notre page Facebook, hein, Ciné, donc C-I-N-E, espace brunch, B-R-U-N-C-H. Vous allez sur Facebook, bien sûr, vous allez pouvoir trouver notre page et il y aura une question qui va vous être posée. À laquelle, bien sûr, se joindra un prix. C'est-à-dire que la première personne qui répondra correctement sur le fil des réponses à la question se méritera, bien sûr, probablement un cocktail hein, offert par nous-mêmes dans un établissement de la ville de Sherbrooke. Les détails seront stipulés, bien sûr, sur le post qu'on va faire là, concernant cette question-là. Donc, sans plus attendre... Revenons à l'âge d'or hollywoodien. Ça donne effectivement soif. Donc, grâce à l'arrivée du cinéma parlant, là, on est à la fin 1927, bien sûr, l'industrie cinématographique subit sans encombre le début de la Grande Dépression. Là, tout le monde se rappelle, hein, crise économique qui fait rage du crash de 1929 à la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1931, la fréquentation des salles baisse, bien sûr, la crise provoquant un chômage massif parmi les artistes et les acteurs des années 30, entraînant des grèves, la création de syndicats d'acteurs et de scénaristes, entre autres le Screen Actors Guild ou le Writers Guild of America. 1933 à 38, le président, justement, Franklin D. Roosevelt met en place le « New Deal », entre guillemets, excusez-moi pour les anglicismes, hein, c'est un peu majeur dans cette chronique-là, une politique interventionniste pour lutter contre les effets de la Grande Dépression, qui avait bien sûr un volet culturel pour aider particulièrement les artistes en difficulté financière. En mars 1930, ça aussi c'est intéressant parce que le contexte de production devient vraiment différent et très... c'est lourd pour les méga corporations, en fait, pour les majors dont je parlais, là, qui produisent sans aucune espèce de limite maintenant, qui sont pas légiférés, etc., et qui ramassent des quantités d'argent assez phénoménales. 1930, le code Hays, ou certains se rappelleront plutôt du Motion Pictures Production Code, apparaît grâce au sénateur William Hays, en fait, un républicain qui devient aussi premier président, c'est-à-dire du Motion Picture Association, en fait.
Académie, je sais pas trop.
Là. Oui, Académie Association. Ouais. C'est en fait... un monsieur qui va... C'est suite, en fait, ça, aux multiples scandales qui ternissent l'image d'Hollywood. Hein. Certains se rappelleront là, l'affaire, comment on l'appelle, Aberlock, un producteur en fait qui a même un peu dépassé Chaplin dans ses, en termes d'humour, qui produisait et qui était acteur lui-même, un peu toxon le monsieur, qui avait été accusé là, finalement de littéralement avoir violé et tué une actrice en fait. Il a été accusé, mais il a été, il n'a pas été reconnu coupable. En fait, monsieur Hayes, là, le fameux sénateur en question, a été mis derrière ce code qui a pris, qu'on appelle le Motion Picture Production Code, en fait, où c'était des mœurs. Là, on avait des respect des mœurs. Il fallait que les productions soient contenues et que leurs employés aussi soient traités dans les périodes de production, du moins de façon, somme toute, décente, en fait. Ça, c'est un code qui a été appliqué, on l'a vu. Le code a été fondé ou écrit en 1930. Il a été appliqué de 1934 à 1966. Suite à ça, bon, il y a eu des restructurations, des fusions qui ont marqué les années 1929 à 1931, assez majeures, entre autres dans les cinq grands. Là. Il y avait moins d'entrées parce que c'était la crise, hein, donc les gens avaient moins d'argent. Ouais. Les moyens de production étaient beaucoup plus exigeants aussi parce que là, bon, cinéma parlant, ça nous prend des studios, on veut avoir des bonnes prises de son, donc des capacités de prendre ça de façon isolée, etc. Les coûts augmentaient. Ils n'avaient pas plus d'argent. Il n'y avait pas plus de monde qui rentrait. Et pourtant, la production se faisait au même rythme qu'avant ces années-là. Que se passait-il? Les banquiers prêtaient toujours plus. Leur façon, eux, de se sécuriser, c'est qu'ils prenaient toujours de plus en plus de place dans les conseils administratifs de chacun de ces majors-là.
C'est ça, l'incrustation, là.
Exactement. La question, c'est à ce moment-ci que le jeu embarque pour nos auditeurs. Oh. Bien sûr, je vous rappelle que cette question-là va être établie sur notre profil, bien sûr, mais effectivement, notre page. Donc, vous retrouverez cette question-là. La question, et c'est, nommez-moi trois des cinq grands. Et là, je vais vous compliquer la chose un peu, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des majors ou des majeurs producteurs, on parlait des cinq grands sur lesquels j'ai donné un peu de détails et des trois petits. Et là, je vais revenir pour m'amuser avec mes co-animateurs. Mais là, ce que je veux, c'est que vous me nommiez trois des cinq grands...
grandes compagnies de production.
Des cinq grands majeurs. Exactement. Ça, ce sera la question, bien sûr, à notre auditoire.
De cette époque-là ou actuellement?
De cette époque-là, mais le nom... Moi, je vais être l'axe, là, au niveau du jury. On va accepter les réponses, même si c'est les réponses qui sont plus récentes. Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Donc,
la première personne à nous stipuler dans le fil de réponse sur notre page Facebook Ciné espace Brunch, sur Facebook, bien sûr, à nous stipuler trois des grands des majors, finalement, se méritera, bien sûr, un cocktail dans un établissement, bien sûr, qui sera spécifié sur notre site Facebook.
Page Facebook. Et profitez-en pour liker notre page Facebook.
Ah ben oui, si vous avez aimé, d'autant plus.
Voilà.
Et maintenant, je reviens. Comme
ça,
je vous l'ai dit...
Là,
c'est le tour des animateurs, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me nommer... la différence, et là je m'adresse à bien sûr Mélina et Jim, la différence entre les trois petits et les cinq grands lorsqu'on fait référence aux majors. Qu'est-ce qui était la majeure différence entre les deux?
Est-ce que ça pourrait être l'internationalisation, la distribution internationale?
Non, belle tentative. Mélina?
Le budget?
Ça pourrait être tentant, mais... Parce qu'on pourrait, ultimement, en s'arrachant les cheveux, mais comme les gens me connaissent, j'en ai plus assez pour le faire. Malheureusement, non, c'est pas la bonne réponse. Par contre, on pourrait, vous allez le voir un peu plus tard, faire ce parallèle-là, comme tu disais, Mélina. La différence, la distinction particulière, en fait, c'est que les trois petits majors ne possédaient aucune salle de projection, alors que les cinq gros, que je nommerai pas pour pas spoiler ou pour pas ne donner la réponse, bien sûr, à nos auditeurs, les cinq grands, eux, possédaient... Et les studios d'enregistrement et les salles de diffusion. Donc, il y avait moyen de produire et de diffuser, ce qui maximisait l'argent. Comme je dis, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de législation de ce côté-là. Écoutez, on va poursuivre dans le plaisir. Une distinction, encore bien sûr pour Jim et Mélina.
Oui.
J'ai besoin que vous me donniez la distinction entre... deux types de films, les films qu'on pourrait qualifier de série A et les films qu'on pourrait qualifier de série B.
Alors, la question, c'est, tu veux qu'on fasse la différence,
ouais,
c'est ça?
Quelle est la distinction entre les deux?
Ben, a priori, j'imagine, à cette époque-là, ça devait être le budget.
effectivement, il n'y a pas de complétion donnée par Mélina.
Je sais qu'aujourd'hui, il y a une... C'est comme le indie, là. Il y a une... comment dire? Il y a une volonté de créer des films de type série B avec un plus grand budget, mais je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment une question de budget.
Ça a-t-il lieu aussi avec des catégories d'acteurs?
Non, ça tourne autour du budget, mais c'est et de la promotion, en fait. Okay. C'est-à-dire que Jim a totalement raison. Les films de série B sont des films qu'on qualifiait de petits budgets à l'époque. Là, je vous rappelle, hein, on se ramène à 1929 à 1931. De 34 000 à 60 000 $ pour la production, c'était un film de série B qui avait aussi comme fonction plutôt d'être une première partie à une double diffusion des fois.
Ce qui correspond à un film de série A au Québec encore aujourd'hui.
Et voilà.
En termes de financement.
Oui, mais en termes de durée aussi, c'était un peu plus court, mais probablement dû au budget, en fait. Mais c'était vraiment lié avec le budget. En termes, les films qu'on pourrait dire, parce que série A, ça n'existe pas, hein, c'est un terme
c'est
totalement inventé, mais qui fait référence, bien sûr, aux super productions qui, elles, étaient surtout... Bon, bien sûr, avec des budgets. À l'époque, déjà, on passe de 34 à 60 000, on saute à 190 000 à 275 000, toujours chez les majors. Et ce qui arrive, c'est qu'il y avait des campagnes publicitaires pour la diffusion aussi. C'est-à-dire qu'on les annonçait d'avance, on les publicisait
par...
Exactement. Ce qu'on voit partout aujourd'hui, que ce soit un film de série A ou de série B, il y a toujours de la promotion. À l'époque, c'était pas le cas. Il y avait vraiment... Et puis on s'entend, là, c'est 34 à 60 000 versus 190 000 à 275 000. Pour l'époque, c'était un petit peu de monnaie, on va se le dire.
Quand même.
Ben, on passait au stade.
Sachant qu'on faisait 2 $ par jour là, dans une usine.
Exactement. Non, c'est ça. Ouais. Si on se remet dans le contexte, on s'entend que les entrées ne coûtaient pas ce qu'ils nous coûtent aujourd'hui, alors que on peut considérer que
les acteurs non plus probablement coûtaient moins cher que ceux qu'aujourd'hui.
Ben, imagine, c'était fou ça, parce que les majors, dans certains cas, hein, ils faisaient des ententes avec les acteurs. C'est-à-dire que si ton film pognait beaucoup, la compagnie de production donnait une partie, pas toute, bien sûr, mais il y en avait qui donnaient une partie de leur revenu à l'acteur. Littéralement, ou à l'actrice. Parce que, bien sûr, il y avait une association, comme on l'a dit dans mon premier bloc, il y avait une association, c'est-à-dire que certaines compagnies de production s'associaient et l'acteur ou l'actrice devenait leur image, en fait. Fait que c'était... il y avait une relation assez incestueuse avec les gens du métier et ceux qui produisaient. Hein, comme on l'a dit, les producteurs, c'était plus ce que c'était aujourd'hui. C'est-à-dire que le producteur allait beaucoup plus loin que le producteur européen à l'époque. Il s'ingérait dans le film, dans la réalisation, etc.
Mais ça se fait encore, occasionnellement.
Je pense qu'à l'époque aussi, c'était plus courant pour les acteurs de signer peut-être avec avec un des majeurs pour, mettons, 5 films
que c'était moins
ou 5 ans.
La pige, c'était plus, c'était une grosse entente. Oh, ouais.
Clairement.
Plus intense. Mais oui, mais c'est fort. Oui, d'accord.
Donc, comme là, je reviens au coût. Hein. C'est-à-dire que les coûts de production augmentent terriblement. On en a parlé un peu plus tôt. Les entrées en salle diminuaient avec l'augmentation des prix. Pourtant, le nombre de productions hollywoodiennes, par contre, n'a jamais diminué. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est que les banquiers prêtaient et se servaient de ça pour rentrer toujours plus profond dans les conseils d'administration des producteurs, bien sûr, des compagnies de production. Jusqu'en 1946, en fait, 1946, l'industrie cinématographique connaît une forte prospérité économique. Les films des années 30 s'intéressent aux problèmes sociaux et au sort des plus démunis. Certains films comme Charlie Chaplin dénoncent la montée du fascisme et les conditions de travail des ouvriers. Par contre, en parallèle, on a des comédies bien super légères, mais qui vont quand même, dans le fond, critiquer les excès du capitalisme sauvage. D'un côté, à côté des films ambitieux, l'histoire a retenu... une foule de films comiques, entre autres des frères Marx, des comédies musicales aux mises en scène brillantes interprétées par des artistes prestigieux comme Fred Astaire, Ginger Rogers, des mélodrames, des westerns de série B, des films d'horreur, des films de gangsters. D'ailleurs, je vous invite à écouter une petite bande sonore qui va évoquer un peu la différence qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Man sieht unter Grotzers mit seiner Tomella.
Rollicking romance of a gambling hoofer who loses his heart to a beautiful dance teacher in a merry mad chase of melody and mirth.
Eh bien, voilà.
Ah oui,
vous voyez? Ben exactement. Écoutez, ça a été... c'était fou, en fait. Il y avait autant du film pour très, très léger, pour se changer les idées, que du film qui était propagandiste, hein, qui dénonçait la montée du fascisme à travers le monde. Bien sûr, pendant la guerre, le Technicolor permet la première réalisation de longs métrages d'animation qui ont marqué l'histoire. Hein. Entre autres, on a Blanche-Neige et les Sept Nains, réalisé par les studios Disney, et surtout permettant à Walt Disney, la créature, de devenir une figure majeure du cinéma américain, et d'autres films connus comme Pinocchio ou Fantasia. Lié à l'effort de guerre, Hollywood travaille avec l'Office d'information de la guerre, hein, dit le OWI, ou Office of War Information, produisant des films de propagande et des films d'espionnage, en fait, qui va toucher une autre clientèle. Après la guerre, bien sûr, le cinéma, bizarrement, va se retrouver soupçonné d'activités anti-américaines par une commission parlementaire en 1947. Et là, ça va s'en aller une grande chasse aux sorcières qui va donner place à la liste noire d'Hollywood. Je vous encourage à aller lire là-dessus, c'est fascinant.
Oui, fascinant.
Des choses, encore là, on réfère encore aux fameux scandales et même à des choses qui sont qu'on considérait anti-américaines. Là. C'était carrément une guerre de l'intérieur. Hein. On assiste bien sûr à ce moment-là aussi au démantèlement du système de production-distribution par le ministère de la Justice, appuyé par la Cour suprême, par l'application en fait de la loi antitrust en 48. Là, le lien là, producteur-distributeur, c'était fini. De plus, le développement...
Hitchcock a payé pour plus tard, d'ailleurs.
Et voilà, il y en a plusieurs même qui ont trouvé ça très lourd parce qu'il n'y avait aucune limite. Eux autres, ils faisaient de l'argent, c'est comme de l'eau, si on veut. De plus, bien sûr, le développement des agents va casser aussi le lien à ce moment-là entre les stars et les studios. Donc, depuis 1947-1948, les revenus chutent dramatiquement, tandis que les coûts de production ne cessent d'augmenter, provoquant une diminution durable des recettes et donc du nombre de productions. Et c'est la fin de ce merveilleux bloc 2. Le bloc 3 s'en vient et ça sera chargé aussi. Hein, Hollywood prend son envol et le déclin d'Hollywood, on verra ça dans 3 semaines.
Eh bien, merci beaucoup André-Jean, fort intéressant. Encore une fois, ce bloc sur le cinéma américain. N'oubliez pas d'aller jouer sur notre page Facebook au petit jeu d'André-Jean si c'est pas déjà trop tard. Et sinon, merci à vous tous, chers auditeurs. Merci Mélina, merci André-Jean. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre Cinébrunch à samedi 11h, rediffusion mardi, la même heure. Et sinon, en toujours en balado sur votre téléphone intelligent et sur cinébrunch.com. Merci à tous et bonne semaine!
Bonne semaine!
Bonne semaine.